Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, nous allons faire une lecture. Elle sera assez longue, mais je n'ai pas le choix. Livre de la Genèse, chapitre 27. Alors, on va prendre le temps de faire cette lecture. Me semble-t-il que ce soit nécessaire pour comprendre un petit peu l'histoire, le contexte, et ensuite nous apporterons un commentaire de ces paroles. Alors, Genèse, chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils », et il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort, maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs. Et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Et Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici. Es-tu mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü, ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea, et lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi, sois le frère de tes frères, le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, « Que mon père se lève, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier me l'a apporté ? J'ai mangé de tout afin que tu viennes, et je l'ai béni. Ainsi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père !» Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessous ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Il fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ? » Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» Une drôle d'histoire. Hein, c'est pas la première fois que vous la lisez. Eh oui. Une drôle d'histoire de famille. On pourrait peut-être aussi donner une application, une drôle d'histoire d'église, parce que l'église c'est une famille. Et puis, on pourrait certainement donner d'autres applications. Alors, c'est l'histoire d'une famille qui commence avec un certain charme. Ce sont les amours d'Isaac et de Rebecca. Ça fait rêver, quand on lit l'histoire. Mais qui s'achève bien tristement par une haine mortelle entre deux frères. Et cela au désespoir des parents. Parce que quand nous avons lu les dernières phrases, quand on entend dire « Rebecca, je suis dégoûté de la vie, à quoi me sert de vivre ?» Il faut dire qu'elle y avait quand même participé. On va voir ça ensemble. Alors, j'aimerais replacer dans le contexte les protagonistes. Il y a Isaac, qui est le père. Il y a Rebecca, la mère, femme d'Isaac. Il y a Ésaü, un personnage assez particulier. Et puis il y a Jacob. Alors lui, c'est... On va en parler un petit peu aujourd'hui. Quand on fait le portrait de chacun, eh bien, on va commencer par Isaac, parce que c'est lui le patriarche. Isaac, ça veut dire rire. C'est le nom que sa mère lui a donné en naissant. Et c'était l'enfant de la vieillesse d'Abraham. Mais une fois qu'il est devenu vieillard, Isaac ne riait plus beaucoup. Et il avait certainement pas mal de soucis et ça lui avait passé l'envie de rire. Et puis il y a Rebecca. Alors, vous connaissez la signification de Rebecca ? Asseyez-vous bien. Ça veut dire Rebecca. Je sais qu'il y a une Rebecca dans la salle, mais faut peut-être pas écouter. Est-ce qu'elle est là d'abord ? Oui, peut-être. Ça signifie une corde avec un nœud coulant. Oh là là ! Les noms ! Hein ? C'est la signification corde avec un nœud coulant. C'est une jeune femme, bon, quand on la prend, à la beauté captivante. C'est comme ça qu'elle est présentée dans la Bible. C'est une femme d'énergie, de courage et de foi. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Mais quelquefois, il faut savoir contrôler son énergie, son courage et sa foi. C'est ce que l'histoire nous raconte. Et puis, il y a Ésaü. C'est à son système pileux, si je peux m'exprimer ainsi, qui se singularisait. C'était un garçon qui était très, très velu, comme il y a certains messieurs, quelquefois, qui peuvent être très velus. C'était sa caractéristique. Et le texte nous dit, dans la Bible, un peu plus loin, au moment de la naissance, il nous est dit que le premier sortit entièrement en roue, comme un manteau de poils, déjà tout petit. Et on lui donna le nom d'Ésaü. C'était un garçon, nous rapporte la Bible, qui était épris de grand air. Il était passionné d'exercices virils et entre autres la chasse. Il n'était pas seulement pêcheur, mais il était chasseur aussi. Chasseur devant l'Éternel. Et on pouvait peut-être penser que ça devait être un rustre. Vous savez, un homme de la campagne, peut-être pas, il ne faisait pas dans la délicatesse. Et puis nous avons notre formidable Jacob. Quand je dis formidable, ça veut dire beaucoup de choses. Son nom veut dire supplanteur. Rusé. Enfin, on en a parlé il y a quelque temps. On ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas l'accabler, le pauvre, parce qu'il a déjà affaire avec lui-même. Il est frère jumeau d'Ésaü, mais c'est un garçon qui est calme, qui est pacifique, mais qui se manifeste par deux personnalités. Il est fourbe et il est croyant. Alors, je ne sais pas comment vous arrivez à faire l'amalgame. Ça existe, ça ? Des croyants qui peuvent être rusés, trompeurs, fourbes, menteurs, supplanteurs, et puis qui se réclament quand même de croire en Dieu. Et c'est vrai, et c'est vrai. Le chapitre 27 que nous avons lu découvre un drame domestique où chacun va jouer son mauvais rôle, mu par des intérêts personnels. Chacun va essayer de tirer un petit peu le drap lui-même pour essayer d'avoir la meilleure part. Et vous avez remarqué avec moi, et on va en parler, que l'enjeu c'est la bénédiction de Dieu. Alors c'est triste quand même. C'est triste que finalement, eh bien là, chacun veut quelque chose. Et pourtant, dans une famille, on ne peut pas dire, il s'est passé des choses. Quand on pense à Abraham auparavant, c'était quand même pas, c'était pas un demi-homme de foi. Finalement, Dieu, de cette situation pourtant peu glorieuse, parce qu'elle nous est présentée et nous l'avons lue ensemble, va réaliser néanmoins son œuvre et ses plans. Alors, ça nous remet peut-être un petit peu sur les rails, les uns et les autres, quoi que nous fassions. Vaut mieux faire les choses bien que de les faire mal, ça c'est sûr. Mais quoi que nous fassions, ça n'empêchera aucunement Dieu de réaliser ce qu'il a envie de faire. Alors c'est sûr que, en prime, si nous faisons les choses mal, nous en récolterons de la souffrance et de la douleur, ça c'est clair. Nous pouvons retarder certaines échéances parce que Dieu prend son temps. Mais néanmoins, ça ne changera rien au plan de Dieu. Et il fera ce qu'il a à faire. Ça, faut bien nous le dire. Malgré les Ésaü, malgré les Isaac qui voient plus très clair, malgré les Rebecca qui, par sentimentalisme, sont en train de remuer des choses qu'il ne faudrait pas remuer, et malgré les Jacob, qui tout en étant des êtres, c'est vrai, quelque part spirituels, mais néanmoins la nature qui est derrière, nature charnelle, prend le dessus, eh bien, s'interpose, rentre dans toutes sortes de combines, mais Dieu va quand même réaliser ses plans. C'est ce que nous dit la Bible. Je pense qu'il aurait pu en être tout autant, mais avec des procédés plus vertueux. Et vous savez, quand la Bible nous demande d'avoir quand même une certaine moralité, l'évangile, ce n'est pas du moralisme. Mais néanmoins, je pense que quand même, il faut prendre en considération que dans nos familles chrétiennes, dans nos couples chrétiens et dans nos églises, il faut quand même avoir une certaine notion de vertu. Quoi qu'il en soit. Et on va se trouver confronté avec notre récit avec beaucoup de souffrance, parce que c'est ce qu'ils vont récolter les uns et les autres. La grande leçon qui en découle, c'est que quiconque veut avoir ou veut voir se réaliser la volonté de Dieu, et tout ce que nous en sommes ce matin, nous sommes tous à lever le bras en disant « Seigneur, nous voulons voir ta volonté se réaliser. » Nous voulons voir ta volonté dans notre vie personnelle. Nous voulons voir ta volonté se réaliser dans cette église. Nous voulons voir ta volonté se réaliser dans notre pays, dans le monde entier. Personne ne va refuser cela. Alors, la leçon que nous apprenons, c'est que si nous voulons voir la volonté de Dieu se réaliser, il y a une chose primordiale, c'est que nous devons nous garder d'intervenir par nous-mêmes. Voilà. Il y a un plan. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les choses préparées à l'avance afin que nous les réalisions, certes. Et ça, c'est bien au-dessus de nous. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où tout pénétré d'un désir profond, sincère, véritable, authentique, de voir la réalité de Dieu, la volonté de Dieu se réaliser, eh bien, nous devons nous garder d'intervenir, de forcer les circonstances ou de hâter charnellement le temps. Ah, l'impatience! Quand la Bible nous dit de tenir notre âme en patience, c'est que certainement elle a des raisons de nous le dire. Parce que certains ont été près du but, dans une réalisation formidable et merveilleuse de Dieu, et ils sont passés à côté. En raison de l'impatience, en raison de certaines choses qui sont là et qui font que, ben, quelquefois, eh bien, nous sortons. Quels que soient les moyens utilisés, et surtout, vérifier les mobiles qui nous inspirent. Qu'est-ce qui inspirait Jacob dans cette circonstance ? Qu'est-ce qui inspirait Rebecca en particulier dans cette circonstance? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Dans le foyer d'Isaac, les intentions de chacun n'étaient pas des plus louables. C'est ce que nous allons découvrir. Vous savez, on est toujours gagnant à laisser Dieu accomplir ses desseins dans notre vie, même si quelquefois les temps sont longs, même si parfois, eh bien, nous devons user de patience. Si quelquefois nous devons, eh bien, nous tenir tranquilles, et nous savons de quoi il en ressort. Mais dès que l'on veut y porter la main, on perd le bénéfice de la bénédiction qui s'attache à une conduite patiente et docile. Ça, c'est la règle. Je n'ai rien inventé, que ce soit dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes, ou que ce soit dans le Nouveau Testament, les épîtres de Paul et puis les autres, nous sommes exhortés à une conduite patiente et docile. Et c'est pourquoi Dieu proclamera par la bouche du prophète Ésaïe « Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. » Quand bien même vous vous étiez imaginé que ça pouvait correspondre quand même, on arrivait peut-être à faire un consensus. Non, non, c'est entièrement la volonté de Dieu et entièrement ses pensées. Il y a dans cette famille un aspect particulier intéressant au plus haut point. C'est un foyer où la foi existe. Et ils avaient de qui tenir. Comme beaucoup de foyers chrétiens, la foi existe déjà depuis une, deux, trois générations. Ça, c'est la particularité. Mais hélas, nous faisons face, malgré que la foi existe, à une faillite ou à la faillite d'une famille religieuse. C'est bien ce que nous comprenons. C'est quand même une faillite. C'est pas une réussite, si je peux me permettre de prendre un mot différent, une famille religieuse. Quand on fouille un peu dans notre texte, on s'aperçoit qu'à la base du drame, il y a une révélation de Dieu authentique, il y a un projet divin. C'est comme cela que les choses. Isaac, héritier d'Abraham, héritier d'une promesse, héritier d'une bénédiction, et lui-même porteur, Isaac, d'une bénédiction pour ses fils. Mais ce sujet, contrairement à ce que nous pourrions nous attendre, il va attiser la querelle. Alors c'est quand même grave, enfin moi il me semble, que quand à partir d'un projet de bénédiction, un plan de Dieu, ça met les chrétiens les uns contre les autres. Ou des frères, ou des sœurs les uns contre les autres. Ou dans une famille, les uns contre les autres. Vous ne trouvez pas que c'est quand même un peu bizarre ça? la bénédiction de Dieu qui se change en quelque chose de mauvais? Ah, il y a un problème. Hein. Et permettez-moi d'assurer que le problème, il ne vient pas de Dieu. Dieu est saint. Donc s'il ne vient pas de Dieu, il vient d'ailleurs, certainement. Alors, ça va créer un conflit majeur. Cependant, cette même révélation de Dieu donnée à ces hommes en question, qui produira, c'est vrai, ça va produire dans un premier temps la foi. Ils croient tous à la grâce de Dieu et au plan de Dieu. Ça va produire la foi. Laquelle même foi, finalement, qu'ils ont dans leur cœur, sauvera l'issue finale. Parce que dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, où il nous est donné le condensé de cette histoire, il nous est dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Donc, ça n'a rien changé au plan de Dieu. Et la bénédiction a été donnée quand même par Isaac. Malheur ! De quelle manière ? La question est posée pour chacun aujourd'hui à la réflexion de notre texte. Et cette question serait la suivante. Comment interpréter la volonté de Dieu et comment Dieu réalise-t-il ses plans ? Toute la question est là. Je pense qu'au fond du cœur de chacun, nous nous posons toujours la question des uns et des autres. Comment interpréter la volonté de Dieu ? Le premier personnage dont nous allons parler, c'est Isaac. Et il est bon justement de prendre les choses méthodiquement parce qu'on va mieux comprendre. Il est fils héritier d'un capital spirituel considérable. C'est un enfant de croyant, celui qui était appelé le père de la foi. Vous savez qui il est. Qui vit sur les expériences de ses parents. Toutefois, nous voyons que Isaac n'avait pas tout à fait le même tempérament et le même tenus et la même ferveur qu'Abraham, son père. On peut dire qu'il était quand même beaucoup plus tiède. Oui, il s'était attiédi. Est-ce que c'est peut-être la caractéristique de nos enfants qui sont nés dans l'Église par rapport à ceux qui viennent du monde et qui découvrent le Seigneur pour les premières fois? Mais il n'a jamais perdu le sens, et ça on peut lui donner à son profit, le sens des choses promises. Il avait gardé ce sens des choses sacrées. Et ça, c'est important. La foi habite le cœur d'Isaac, même si cette foi est loin d'être aussi vibrante, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et aussi engagée que celle de son père Abraham. Abraham, c'est un géant. Isaac s'en est un aussi. Il fait partie des patriarches, des hommes de foi. Mais c'était quand même un petit peu la dimension en dessous. On est bien forcé de le reconnaître. Dieu a laissé dans Isaac une empreinte profonde, et cela dès son plus jeune âge. Et on se souvient de ce qui lui est arrivé lorsqu'il était jeune homme et que son père l'a monté sur la montagne de Morija. Et ça, c'est une chose qu'on n'oublie jamais. Abraham l'a certainement jamais oublié, mais Isaac aussi. Quand vous êtes présenté en sacrifice et que vous voyez un couteau au-dessus de votre gorge, enfin, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais enfin, moi, j'ai rien vu, on m'a endormi. Puis, je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais bon, toujours est-il que, quelque part, ça a dû certainement marquer ce jeune homme profondément, cet acte de foi colossal, extraordinaire, impensable, incroyable. Alors, il avait gardé certainement de bons restes, on peut dire, de cette expérience. De plus, quand on lit le chapitre 24 et tous les détails qui s'y rattachent au choix de trouver une épouse à Isaac, parce que ça avait été aussi mené par son père, un homme qui avait l'Esprit de Dieu, on ne peut constater que Rebecca et lui étaient divinement préparés l'un pour l'autre. Ils faisaient un couple formidable. Vous ne trouvez pas qu'ils sont mignons? Bah, peut-être pas là, ils sont assez âgés, mais quoi qu'on peut être âgé et puis avoir un couple formidable aussi. Même à 80, 90 ans, quand on vit encore ensemble, il y a de très beaux couples vieillissants. Ouais, c'est formidable ça. Mais déjà, quand ils étaient jeunes gens, c'est une histoire touchante que les fiançailles ou la rencontre d'Isaac avec Rebecca. Il est dit d'une manière assez lapidaire, Isaac prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Je trouve que c'est magnifique ça. Vous vous rendez compte? Il l'a pris et il l'a aimé. C'est beau, il n'y a pas d'autres commentaires, mais ça suffit pour nous dire que c'est vrai. Ils ont eu certainement au début de leur... Enfin, et après, certainement dans toute leur vie de couple, quelque chose de formidable où l'amour était là. Et permettez-moi de vous dire que c'est l'essentiel du bonheur. Pas la peine d'aller chercher autre chose. Enfin, je dis ça en passant. Le couple est plein d'espoir au départ de leur aventure. Et pourtant, il y a une déception qui va jeter un voile momentanément, c'est l'absence d'enfant. comme c'est arrivé d'autres cas et dans d'autres situations dans la Bible. Quelque temps après, le problème va être remédié avec la venue de deux garçons, des jumeaux, en réponse directe à la prière que nous lisons au chapitre 25 et au verset 21. Je voudrais relire le texte. Il est dit ceci, chapitre 25 et verset 21, c'est la naissance justement de ces enfants. Que je trouve le verset. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Future maman, Rebecca s'inquiète et consulte Dieu. D'abord, c'était la prière d'Isaac pour pallier à ce problème de stérilité. Et puis ensuite, quand elle sent qu'elle est là, qu'elle a un bébé ou qu'elle a la vie à l'intérieur d'elle-même, elle dit « Mais Seigneur, je voudrais bien savoir un petit peu ce qui va se passer. » Et Dieu lui révèle qu'il y a deux nations qui vont sortir, deux peuples. Maintenant, pour la compréhension des événements qui suivent, gardons en mémoire que Rebecca savait la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. Qu'elle savait depuis la naissance de ses enfants et que pendant toute leur enfance, pendant leur adolescence, et quand ils sont devenus des hommes, certainement au point où ils en sont là, au chapitre 27, ce sont déjà des hommes. Alors elle savait, elle a gardé ça. Elle connaissait à l'avance. Mais permettez-moi de vous dire, est-ce que c'est bien de tout connaître à l'avance ? Seigneur, donne-moi des révélations. Seigneur, je trépigne parce que je voudrais savoir ce qui va se passer. Alors quand ça plaît à Dieu de nous donner des révélations, béni soit son nom. C'est bien, c'est formidable, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ces révélations? Comment nous allons les utiliser? Comment nous allons faire avec ça? Alors, on peut dire qu'elle connaissait à l'avance, parce que Dieu lui avait mis dans son cœur. Ça fait un peu comme Marie, vous savez. Marie, la mère de Jésus. Ésaü et Jacob étaient deux enfants totalement différents, nous dit la parole de Dieu. Frères jumeaux, dissemblables en tout point. Il y en a qui se ressemblent. Quelquefois, on ne sait pas les distinguer. On voit l'un, on voit l'autre, on ne peut pas faire la différence. Mais là, il y avait véritablement une différence. Au verset 27, il nous est dit que ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Presque imperceptiblement, on voit le mal poindre. Non pas parce qu'il y en a un qui va à la chasse et puis que l'autre qui est dans les jupons de sa mère. Si vous me permettez de dire les choses comme ça. Mais ce n'est pas, à ce niveau-là. Quand Isaac et Rebecca, et le problème va venir en raison des parents, quand l'un et l'autre, Isaac et Rebecca, tombent dans la facile tentation, et écoutez bien le mot, parce que c'est un fléau qui peut frapper nos familles, qui peut frapper nos églises, c'est le favoritisme. C'est le titre, finalement, de ce message. Le favoritisme. Le parti pris. Quand on a des chouchous. Vous voulez peut-être encore d'autres... Non ? Eh oui, le favoritisme. Et en disant cela, frères et sœurs, peut-être que certains ont vécu, ont souffert du favoritisme dans leur propre famille. Peut-être que certains vivent le favoritisme actuellement des enfants. Nos enfants vivent un certain favoritisme. Ou peut-être que nous, en tant que parents, nous avons des préférés parmi nos enfants. Alors il va falloir expliquer les choses. Que quelquefois, même dans les églises, il y a les favoris du pasteur. On ne se connaît pas encore assez. Ou peut-être que vous avez un pasteur favori. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas le choix. De toute manière, vous n'avez pas le choix. Il va falloir me supporter jusqu'à la fin, jusqu'à mort sans suivre. Oh là là, dites donc. Ça va nous mener loin, ça. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil que je fais. Je commence à me connaître. Une phrase éclaire leur faiblesse. Ésaü aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Wow. Vous trouvez pas que c'est pas tout à fait normal, ça? Ils sont père et mère, ils ont deux enfants, et chacun a son fils. Vous trouvez pas? Je le relis, hein, parce que moi je trouve ça... Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Faiblesse, assurément ou apparemment insignifiante, qui va à terme bousculer cette belle harmonie familiale et changer les relations en suspicion, en jalousie, jusqu'à l'imprévisible, une haine mortelle. Ah, je crois que nous pourrions verser des larmes sur l'histoire des familles et sur l'histoire des églises. Ouais. Où il y a eu du favoritisme. Où les choses étaient bien parties, mais ont mal fini. Vous savez, il y a de quoi pleurer sur cette situation. Vraiment de quoi pleurer. Comment peut-on en arriver là? Que des familles comme celles dont il nous est parlé dans la Bible, des familles de complaisance, sont clairement établies. Parce qu'il y a un triste aveu qui nous est révélé. Il aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Est-ce que vous aimez le gibier? Est-ce qu'il y a des chasseurs parmi nous? Il y a des pêcheurs. Ça dépend comment vous l'écrivez. Hein. Ouais. Mais des chasseurs. Comment l'amour peut-il chercher aussi bas ses raisons et ses mobiles? On se serait attendu à mieux en spiritualité, assurément. De la part d'Isaac, vous vous rendez compte, lui, fils d'Abraham, un homme comme Isaac, arrivé à la fin de ses jours et de dire, eh bien, mon contentement suprême avant que je meure, parce que c'est ça, hein, on l'a lu. Ah, c'est quand mon fils, il me ramène des lapins, des lièvres, des cailles. Ah, remarquez, entre parenthèses, histoire d'écaille. Hein. Vous vous souvenez des Hébreux? À un moment donné, ils ont tellement mangé que ça leur sortait par les oreilles et par les yeux. Hein. Méfiez-vous du gibier. Manger, la bonne table, se repaître. Quelle piètre perspective quand on arrive pour un homme de Dieu en arriver à ce stade, à la fin de ses jours. Cela nous oblige à regarder les choses en face. Et sous l'apparence d'une vie bien réglée, moralement et religieusement, et vous savez qu'Isaac, il aimait bien aussi, comme son père, construire des autels. A-U-T-E-L-S. Parce que partout où il allait, il construisait des autels lui aussi. Il l'avait vu chez son père. Donc une vie bien réglée apparemment. On découvre l'évidence d'un manque de sanctification, une superficialité insoupçonnée. Le boire et le manger. C'est bien, hein, manger et boire. Depuis que je suis à Saint-Nazaire, mon épouse me dit « Tu prends du poids ici. » Ça vous fait rire. C'est l'air de la mer. Alors, je ne sais pas dans quel temps, comment je veux être. Mais, toujours est-il... Bon, c'est l'âge, de toute façon. Mais toujours est-il que... Attention, il y a quelque chose. Vous me le direz, hein, si vous voyez. Hop. Le boire et le manger dont nous avertit l'Évangile... Écoutez bien, on va pas tourner autour de l'assiette. Hein. Ce bien-être mollement anesthésiant qui engendre l'assoupissement spirituel. Et je ne parle pas de l'assiette. Un danger sérieux trop souvent sous-estimé parce qu'innocent, mais insidieux. Et ça touche notre génération, ça touche notre société de consommation. Et c'est pas seulement la table. Attention, la table... Aujourd'hui, n'est pas seulement l'assiette garnie, mais tout ce qui est consommable. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est consommable et dont le monde s'éprend sans modération. Une nourriture télévisuelle, je ne suis pas contre la télévision en disant cela. L'engouement ludique, parce qu'on est sommes dans une société de plaisir et de loisirs. La frénésie de l'information. C'est peut-être la boulimie du tout savoir, du tout voir et du tout avoir. C'est peut-être ça aussi la table dans lequel piège est tombé Isaac. Au point qu'on est parvenu à remplacer le besoin par le désir Et on va même plus loin que le désir, le plaisir, parce qu'il y a un mot qui marche très bien dans notre société d'aujourd'hui, c'est le mot plaisir. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et cela, c'est incessamment, c'est sans cesse se stimuler dans notre société. Consommer, alors on devient boulimique, on devient, comment on dit ? Il y a un mot pour ça, les gens qui sont très 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 fortes, obèses, voilà. Merci de m'aider. Hein ? L'obésité, ça devient un véritable problème. Hein ? Il n'y a pas que la nourriture. Hein ? Le sommeil d'Isaac, parce qu'il s'agit de cela, paraît avoir encouragé son fils à la passion de la chasse. Le père voulait manger du gibier, mais comme il n'avait plus ses jambes, il disait à son fils, « Eh bien, tu sors aujourd'hui, tu prends ton arc et tes flèches, et puis tu vas me chercher du gibier, parce que ce soir ou demain, j'aurais envie de manger quelque chose de bon. » Et comme c'était un garçon qui avait le goût de la nature et tout ça, eh bien, il faisait ce que son père lui disait. Pour des motifs purement personnels et égoïstes, parce qu'il voulait se repaître finalement de gibier. Isaac se régalait de venaison. Le plaisir de sa vie, qui était non pas le filet mignon, mais le péché mignon, sans qu'il s'en doute, son goût exagéré pour la bonne chair engloutissait sa vie spirituelle. Sans qu'il s'en aperçoive, sa vie spirituelle qui gardait les formes extérieures, avec un certain embonpoint, mais qui se vidait de sa substance intérieure. Vous ne trouvez pas que quelquefois c'est un petit peu ce que connaît nos églises aujourd'hui ? Connaît le peuple de Dieu ? Avec derrière les apparences extérieures ? Et quelquefois à l'intérieur où il ne reste pas grand-chose ? Notre temps ne supporte pas l'ascétisme, hein, qui est en soi aussi mauvais, sinon davantage, que finalement le relâchement spirituel. C'est pour ça qu'il nous est dit dans la parole « Veillez et priez ». Afin que vous soyez gardés de la tentation. Temps où toutes les fantaisies et les caprices peuvent être rapidement satisfaits, mais qui façonnent aisément un rétrograde. Et dans le cas de figure qui nous intéresse, Isaac, sur ses vieux jours, on peut dire qu'il était quand même passablement rétrograde. Le rétrogradage, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Aujourd'hui, un homme spirituel, et demain, il est rétrograde. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait par grignotage. L'argent et ses commodités répondent à tout. Mais la règle demeure. Quand Paul nous dit, tout est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Usez, frères et sœurs, usez sans abuser. Ça, c'est la règle de l'Évangile. Dieu ne nous a pas empêchés de vivre. Il ne nous a pas appelés à se renfermer là dans l'ascétisme ou dans un légalisme forcené. Il nous a dit d'user de tout ce qu'il vous a donné, mais sans abuser. Et Isaac était un croyant, assurément un croyant affaibli. Maintenant, nous allons passer à Rebecca. Ça vous intéresse ? Vous vous souvenez du nom, la signification de son nom ? Alors, c'est quoi ? Ah oui, vous vous souvenez. Alors, messieurs... Les messieurs qui sont mariés, vous savez ce qu'il en est. Hein. Rebecca et ses faveurs déclarées pour Jacob. Là, l'affaire se complique, parce qu'on voit son mari qui est en train de tomber un petit peu dans des passions. Mais là, c'est autre chose. L'affaire se complique. Souvenons-nous, Rebecca avait eu la connaissance que son préféré Jacob porterait dans la famille les principes d'une grande alliance avec Dieu. On peut le dire comme ça. Elle le savait, la maman. Elle savait que lui deviendrait, par rapport à Ésaü, quelqu'un. Que son fils Ésaü serait soumis au plus jeune. Et elle y trouvait un certain plaisir. Ah, c'est assez incompréhensible, mais c'est comme ça. Quel honneur pour une maman, et je salue les mamans au passage ce matin, c'est vrai, de savoir que son protégé aurait la primauté. Elle ressemblait un petit peu à une autre maman qui un jour est venue vers Jésus, entourée de ses deux grands-fils, pour lui demander, « Dis donc Jésus, quand tu rentreras dans ton règne, tu pourrais pas faire que mon petit à droite et mon petit à gauche, eh bien, puisse là être auprès de toi. Hein, vous connaissez comment elle s'appelle ? Madame ?
Ah ben si ! Ah ben non ! Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas !
La femme de Zébédée, hein ? La mère de Jean et de Jacques, hein, c'est ça ? Ah non, non, Salomé, c'est autre chose. Ah non. D'ailleurs, Salomé, c'est pas écrit dans la Bible. C'est la tradition qui a donné le nom de Salomé après. Et cette fierté-là, c'est bien la source du drame. La faiblesse de Rebecca, qui est le fruit empoisonné de son favoritisme, parce qu'il faut quand même l'avouer, réside dans le fait qu'ayant reçu la connaissance du plan divin pour Jacob, elle ait voulu forcer l'accomplissement de la volonté de Dieu parce qu'elle le savait. Et je dis encore une fois de plus, s'il est besoin de le rappeler, quelquefois vous n'aimez pas savoir les choses. Et de Dieu, de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Parce que ça, ça s'est vérifié et ça s'est souvent vu dans l'œuvre de Dieu, même au niveau des pasteurs, je tiens à le dire, que quand on sait les choses à l'avance, eh bien nous avons cette responsabilité de faire, de laisser à Dieu de faire les choses comme il veut, où il veut et quand il veut. Mais à partir du moment où nous commençons à marcher avec des choses que nous savons, tout authentiques soient-elles, parce que je ne suis pas là pour les rejeter, mais que nous voulons forcer la main du Seigneur, alors je peux vous dire qu'il y a souvent des planches savonnées. Et j'en ai vu des planches savonnées pour des pasteurs qui sont descendus. C'est triste. Parce qu'on n'a pas su attendre les choses. Et de quelle manière ? Ni son raisonnement chez Rebecca, un raisonnement en apparence très pieux, ni les méthodes utilisées n'étaient bons. Et on peut le comprendre en lisant ce que nous avons lu. Premièrement, Rebecca n'avait pas assez de foi pour compter sur Dieu, pour laisser à Dieu faire les choses à sa place. Ça, c'est un manque de foi. Bien que j'ai dit que c'était une femme de foi. Mais il y a des moments où nous pouvons avoir une grande foi et d'autres moments où nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Et ça, c'est un manque de foi. Afin que la chose arrive, quand bien même les éléments semblent prendre une autre tournure, parce qu'elle va bien voir que son mari est en train d'imposer les mains au mauvais. Enfin, au mauvais, façon de parler, hein, c'est quand même son fils. Mais pas celui qu'elle désirait. Et quelquefois, il y a des apparences comme ça dans la vie, où il nous semble que Dieu est en train de se tromper. Il est en train de mettre les mains là où il ne faut pas. C'est comme l'histoire de Joseph à un moment donné. Quand il veut poser les mains sur ses petits-fils. Et Jacob, c'est toujours Jacob. Et que Joseph lui dit, non, père, ne pose pas la main sur celui-ci. Et il lui dit, non, je pose la main sur celui-ci parce que moi, Dieu m'a montré de poser la main comme ça. Et vous savez, il faut se méfier parce qu'avec le Seigneur, quelquefois, ce n'est pas ce que nous pensons. Mais Dieu ne se trompe jamais. Et nous croyons que Dieu se trompe. Et ça, c'est faux. C'est une erreur. Alors, quelquefois, ça prend une mauvaise tournure, mais Dieu ne se trompe pas. Et elle veut justement, devant ce qu'elle voit, qui semble partir dans un petit peu à la dérive, elle veut essayer de corriger le tir. Alors Rebecca recourt à la ruse. Parce que vous voyez, un péché s'en emmène un autre. Il n'y a rien à faire. Il y a cette maxime dans le monde qui dit « La fin justifie les moyens ». Eh bien ça, c'est pas vrai. Enfin, si c'est vrai, mais je veux dire que c'est pas normal pour un chrétien. Pas normal pour un chrétien. Circonstance atténuante, pour le compte de Rebecca, c'est vrai qu'Isaac est un homme très âgé, qu'il perdait quelque peu pied spirituellement, et elle devait s'en apercevoir. Et comble de cécité, il était prêt à bénir Ésaü contre le choix résolu de Dieu qu'elle savait. C'est vrai que la promesse était réelle et qu'il fallait sauver la situation, mais Dieu ne lui avait pas demandé de sauver la situation, elle, la maman. Et quand on veut s'ingérer dans des choses qui ne nous regardent pas, on fait plus de mal que de bien. Surtout quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous demande jamais de collaborer avec lui, écoutez bien la suite, hein, parce que je ne m'arrête pas là, par des procédés qui lèsent la morale. On ne sera jamais justifié, et ça au grand jamais, qu'on soit pasteur, qu'on soit ancien, qu'on soit chrétien, quelle que soit notre position, Dieu n'entérinera jamais une chose où nous pensons collaborer avec le Seigneur et si nous utilisons des procédés qui lèsent la morale. Parce que Dieu est un Dieu de sainteté. La ruse, le mensonge, la rétractation, que votre oui soit oui, que votre non soit non, les détours,
quand on grille les étapes.
Tout ça, ce n'est pas honnête. Et je le dis, et je l'affirme, ce n'est pas honnête. Et Dieu veut, avant que nous réalisions de grandes choses, que nous soyons avant tout des hommes et des femmes honnêtes. C'est ce qu'il cherche. C'est pas d'avoir des dons, c'est pas d'avoir des talents, c'est pas de guérir les malades, c'est pas de faire des choses extraordinaires, ou d'avoir une prédication extraordinaire et de parler avec une rhétorique formidable. Non, c'est pas ce qui l'intéresse, le Seigneur, parce que ça, il est capable de nous le donner. Il veut que nous ayons honnêtes. Point.
Voilà l'exemple type d'intervention intempestive qui emploie le mauvais moyen au service de la bonne cause.
Vous croyez que ça va, ça?
La cause est bonne, mais les moyens sont mauvais. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat?
Dieu, et je le réaffirme ce matin, Dieu n'a pas besoin de nous pour réaliser ses plans. S'il veut bien les réaliser avec nous, c'est que c'est encore de sa part une condescendance. Parce qu'il aurait pu se passer des hommes. C'est encore une grâce, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est par ta grâce que nous venons, c'est par ta grâce que nous entrons, c'est par la grâce que nous sommes, Seigneur. On n'a rien d'autre.
Abraham avait cru que pour réaliser la volonté de Dieu et avoir un fils qu'il espérait être le fils de la promesse, il fallait qu'il cède aux caprices de Sarai en allant vers Agar. Là, c'est un exemple aussi de détournement. Et quelquefois, nous faisons les choses en conscience, enfin en conscience, avec beaucoup de sincérité. Et c'est pour ça que c'est dans la volonté du Seigneur. Quels dégâts nous courons avec nos coups de main? Je l'ai appelé comme ça, hein, nos coups de main qui se retournent en coups de bâton. Ouais. Vous vous souvenez de l'histoire que nous avons racontée au moment de Noël, là, les bâtons de Jacob, bâton de pèlerin, bâton du châtiment et le bâton d'adoration. On s'en souvient, c'est encore frais. Hein. Alors voici la leçon que nous pouvons donner, je ne veux pas être trop tard, parce que je finirai ce message, si vous voulez bien, dans 15 jours, comme on aura un culte écourté à cause de la Assemblée Générale. Donc je finirai à ce moment-là, donc je ne veux pas être très long aujourd'hui. La leçon. Notre foi doit être à la mesure de notre connaissance que Dieu nous a confiée. On est d'accord. Pour notre bien, et en vue du bien, et pas seulement notre bien à nous, mais le bien des autres, le bien du peuple de Dieu. Et notre prière, s'il y a une prière peut-être à faire monter vers le Seigneur, c'est pas tant la réalisation de nos plans que notre attitude de foi, patiente et dépendance à l'accomplissement de sa volonté. Je ferai une remarque. On comprend mieux pourquoi Dieu ne nous donne pas fréquemment des révélations. C'est vrai qu'on aspire aux révélations. J'ai enseigné là dernièrement sur les dons spirituels, sur les paroles de révélation, les dons de révélation. Mais quelquefois, je pense que c'est pas que Dieu ne voudrait pas nous donner des révélations, et en donner encore davantage, parce que ce sont des fruits exquis du royaume de Dieu parmi les hommes. Mais il faut voir aussi ce qu'on en fait des révélations. Il faut voir aussi ce que l'on fait de certaines choses. Parce que si ça contribue à démolir, si ça contribue à faire du mal, ce n'est pas la peine. Et Dieu sait très bien ce qu'il fait. Alors, on comprend. Car alors, nous serions souvent tentés, comme peut-être Rebecca, de les accomplir à sa place. La foi, c'est de ne pas savoir à l'avance, c'est de faire confiance. Parce que le principe de la foi, je le rappelle ce matin, c'est de croire sans voir. Et je dirais même, c'est de croire sans savoir. Parce que la plus grande foi que nous puissions trouver dans l'Église de Jésus-Christ et dans le corps de Christ, c'est de ne pas marcher en connaissant les choses, c'est de marcher tout simplement par la foi. Et un homme comme Abraham a été un homme de grande foi. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit « quitte ton pays ». Et il nous est rappelé un peu plus loin qu'il est parti sans savoir où il allait. Si moi je connais le programme de A jusqu'à Z, alors à ce moment-là, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus tout à fait la foi. Ce n'est plus l'abandon. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a une certaine friandise, une certaine gourmandise. De savoir les choses à l'avance, ça fuse un peu dans tous les sens, mais après quelques années de ministère, je me suis aperçu des dégâts que ça a pu causer. Il y a des frères et des sœurs qui ne sont même plus chrétiens aujourd'hui. Ils ont été dégoûtés. Et ils ont cru sincèrement à des choses qui finalement n'étaient même pas inspirées par le Seigneur. Et nous, en tant que pasteurs, nous ne pouvons qu'en pleurer.
c'est tout.
Alors, je dis que la foi, c'est de marcher en faisant confiance à Dieu. Que sera demain, je ne le sais pas. Mais je lui fais confiance. Et heureusement qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Parce que s'il y avait des choses que nous avions su à l'avance, nous ne serions peut-être pas au milieu de vous aujourd'hui. Ouais. Par contre, il y a des choses que nous avons su et qui nous ont amenés jusqu'à vous. Parce que nous avons connu une période l'année passée qui était une période extrêmement difficile, je parle pour moi et mon épouse, où notre vie spirituelle n'a jamais été autant marquée par la prophétie, par des révélations et par toutes sortes de choses. Fallait-il croire que nous en avions besoin pour tenir le coup? Mais Dieu est bon. Mais ce n'était pas une situation à exploiter. C'était tout simplement une situation à vivre avec la force et la grâce de Dieu. Alors, avant de terminer, laissez-moi vous parler des préférences de Rebecca. C'est très lapidaire, hein? C'est très simple. Elle aimait Jacob. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait de son Ésaü? Elle aimait Jacob. La turbulence et la rusticité d'Ésaü devaient la désoler pour une maman. Un garçon qui était rustre, qui était un petit peu grossier, des choses comme ça. C'est vrai que ça ne fait pas forcément plaisir. Hein. Mais son Jacob à elle. Ah oui. Son Jacob, c'était un garçon bien mignon. Il était tranquille. Il arrivait toujours aux heures pour les repas. Et puis, il rentrait dormir la nuit, alors que son mécréant de frère, il courait encore le lapin à des heures tardives. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Il avait le visage toujours bien débarbouillé, parce qu'il ne sortait pas dehors. Voyez. Et puis, il avait les mains propres. Il faisait la vaisselle pour sa maman, avant que le lave-vaisselle eût été inventé. Il faut le dire. Il était aimable. Il avait... pour une maman, eh bien, c'était un si bon garçon. Alors, on l'aimait parce qu'il était bien gentil. Notre brave Jacob. Et Rebecca devait parfois jeter à la face de son mari... quand ils n'étaient pas toujours d'accord, parce que ça arrive dans les couples. Surtout, quelquefois, les disputes, enfin, je ne veux pas trop m'éloigner de mon texte, mais quelquefois, les disputes les viennent à cause des enfants, vous ne trouvez pas? Hein? Quand on est jeune marié, bon, c'est formidable. Mais après, quand les enfants viennent, l'éducation, et puis les exigences, quelquefois, de nos petites têtes blondes, etc., ou têtes brunes, je ne sais pas. Alors, quelquefois, ça fait des conflits, et quelquefois, elle devait dire à son mari, parce qu'il ne se remet pas, hein, notre brave... Bon, il était vieux, il ne voyait pas très clair... Mais quand même, elle devait lui dire, mais tu devrais reprendre ton fils, là, Ésaü, hein, tu te rends compte à quelle heure il arrive pour rentrer à la maison? Alors, elle devait lui jeter à la face les qualités, les mérites de son préféré. Ah oui, Jacob, hein, tu sais. Prends l'exemple sur Jacob. À un tel point que l'Écriture nous dit une chose qui n'aurait jamais dû exister dans une famille normale et une famille chrétienne. Écoutez bien, au chapitre 27 et au verset 5 à 6, il nous est dit, Ésaü, fils d'Isaac. Attention, hein. Et Jacob, fils de Rebecca. Oh. Alors là, ça vous coupe les jambes. Parce que si l'Écriture le dit, c'est que c'est quand même la vérité. Et c'est quand même une vérité quand même difficile dans un foyer et dans un couple. Fils d'Isaac pour l'un et fils de Rebecca pour l'autre. Vous savez, ça ne devrait jamais exister aussi dans une église. Parce que c'est une famille. Moi, je suis de ceci, moi, je suis de cela. Ça, Paul a eu à traiter le problème à Corinthe. Hein. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Christ. Vous vous rendez compte, je suis le meilleur, je suis de Christ. Le favoritisme des êtres est à l'origine des drames de la séparation. Et ça, il faut que nous nous le mettions dans la tête, et encore plus que dans la tête, dans le cœur. Le favoritisme est un péché, mes frères et sœurs. Ça paraît pas comme ça. Mais quand on regarde avec le temps, ça fait du mal. Le défaut d'Isaac était son affaiblissement spirituel, celui de Rebecca, son sentimentalisme et son parti pris. Je vais m'arrêter là, si vous voulez bien. Je vous donne rendez-vous pendant 15 jours. Et on terminera l'histoire. Et vous allez voir comment ça se termine. Hein. Vous savez, pourquoi la Bible nous rappelle-t-elle de telles choses?
Parce qu'elle nous raconte des drôles d'histoires, hein, la Bible, vous avez remarqué ? Oh là là, on se dit, mais... Eh, il y a marqué au-dessus de ma couverture, il y a marqué « Sainte Bible ». Et les histoires qu'il y a à l'intérieur, elles ne sont pas très saintes. Hein. Et vous savez pourquoi ? Alors certains ont dit « Ah bah oui, mais si c'est ça ton Dieu, moi j'en veux pas. Hein. » Ah, mais le problème, c'est pas le problème du Seigneur, parce que le Seigneur est saint, lui. Mais l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des hommes qui, nous, eh bien, nous ne sommes pas tout à fait toujours très saints. Hein. Et c'est bien ces histoires qui nous sont rapportées pour nous servir d'exemple, afin que finalement, eh bien, nous puissions, eh bien là, évoluer dans le bon sens. Et nous tenir devant Dieu pour qu'il nous transforme, qu'il nous régénère et qu'il change notre vie. Ne nous laissons pas voler notre bonheur, frères et sœurs. Vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas du bricolage. La foi, ce n'est pas du bricolage. Ce n'est pas des petites choses que l'on met comme ça. Ce n'est pas un puzzle. C'est beaucoup plus que cela. C'est un message et une parole qui n'a d'égal que la sainteté du Seigneur. Et ces histoires de famille, ces histoires de couple, ces histoires de guerre, ces histoires de sang, ces histoires de tromperies, tout ça. Mais c'est l'homme. L'homme, j'allais dire, dans toute sa splendeur. Grandeur et décadence. Eh oui. Mais ce n'est pas pour nous dire, ben voilà, nous sommes perdus. C'est pour nous dire que dans notre perdition, nos perditions, à quelque niveau que ce soit, le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Et que là où il y a du favoritisme, là où il y a du parti pris, comme nous l'avons vu ce matin, le Seigneur nous dit maintenant, allez, il faut changer quand même. Un peu de maturité, un peu d'esprit mature, pour qu'on puisse quand même un petit peu se... hein? Parce que là, nous sommes en train de pénaliser notre bonheur. Et vous allez voir que le bonheur, il est parti de la maison, là. D'une manière très, très claire. Et je crois que le Seigneur s'adresse à nous encore, les uns et les autres. Vous avez remarqué, je parle librement. Hein. Et je continuerai à parler librement, parce que finalement, moi, je ne sais pas toutes les histoires et je ne peux pas les savoir. Si on vient me les raconter, je les entendrai. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est d'autant mieux, d'ailleurs, que ça ne m'intéresse pas. Et s'il y a une intervention à faire, eh bien, les interventions les plus pertinentes et les plus... celles qui portent son fruit, c'est avant tout celle de la prière. Et pour venir en aide à ceux qui ont des besoins et des difficultés. Et peut-être y a-t-il des frères et des sœurs qui sont encore à se débattre avec une souffrance de favoritisme dans leur enfance ou de leur adolescence. Peut-être qu'il y a des parents, parce que bon, ils n'ont pas eu d'autres exemples, eh bien là, ont du parti pris ou du favoritisme pour leurs enfants. Alors frères et sœurs, eh bien, tenez-vous devant le Seigneur et il va vous aider dans tout cela. Parce que ce qui compte, c'est vivre heureux. C'est vivre dans la paix. C'est vivre dans la bénédiction du Seigneur. Parce que là où il y a des tiraillements comme ça, eh bien le Seigneur ne peut pas bénir, il ne peut pas bénir normalement. Et nous, nous voulons être bénis, alors que le Seigneur nous aide. Quelle histoire. Nous y reviendrons dans 15 jours, et on parlera de la suite. Vous avez mémorisé tout cela, hein? Mais que le Seigneur nous aide, parce que nous voulons le bénir. Parce que c'est le Seigneur qui guérit. Il est un Dieu de délivrance. Et vous savez, on parle beaucoup de guérison, du boiteux, du paralytique, du sourd, de l'aveugle, etc. Ce sont des choses formidables et extérieures. Mais vous savez combien il y a de souffrances et de douleurs à l'intérieur, et ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Eh bien, le Seigneur nous parle de telle manière pour vous dire, eh bien, moi, j'ai vu ta souffrance, et je viens te tendre la main pour te guérir, pour te rétablir, et remettre les choses comme il faut qu'elles soient remises en ordre. Alors, Seigneur est bon, et nous voulons le bénir maintenant.